RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
L'After, jusqu'à 23h.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, toi.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jean-Christophe Drouet.
Hey, salut à tous, c'est l'After, la seule émission au monde que vous pouvez suivre à la radio, sur RMC, à la télé, sur BFM Sport, ou encore sur Internet. C'est incroyable. On est en 2018. Sur rmcsport.fr, je vais y arriver. L'After de 21h à 23h au mois de juillet. Retenez bien cet horaire, même si évidemment nous sommes déjà le 28 juillet. Ce soir, pour vous régaler, le Parisien de l'After qui, comme le Président de la République, a déjà dit qu'il vienne me chercher. Lui parler des grands clubs, on connaît la fin de l'histoire. Samy Traoré, salut Samy.
Salut, bonsoir à tous.
Ça va?
Toujours.
Tu peux jamais être coup de gueule comme ça, comme le Président de la République?
Non, pas
toujours. T'as toujours une voix très douce.
Non, pas toujours. Enfin, toujours, ça m'arrive de gueuler de temps en temps.
Tu n'es pas toujours très doux. Enfin, tu montreras un jour ce que ça donne?
Non.
Et vous faites ça entre vous le week-end, mais le soir, mais nous, on veut pas savoir.
Tu viendras à la maison ce soir pour montrer à quel point tu es.
Merci, c'est gentil.
Le Nantais de l'After, qui a quitté les Canaries en 2001, date à laquelle le jeu à la Nantaise est mort. On pense qu'il y a un lien. Sébastien Piocelle. Salut Sébastien.
Salut, bonsoir à tous.
Bon, c'est la première fois qu'on fait l'émission ensemble, donc forcément, l'intro est sympa. Mais la prochaine fois, elle sera un petit peu plus dure. Évidemment, Sébastien. Le philosophe de l'After, qui épouse parfaitement l'esprit de Charles Baudelaire et le physique de Cristiano Ronaldo, je cite, « Tout homme bien portant peut se passer de manger pendant deux jours de poésie. Jamais. » Jonathan McCarthy. Salut Jonathan.
Salut JC, salut les gars.
J'imagine que tu souscris totalement à cette phrase.
Non, c'est important de se nourrir quand même.
Oui.
Shaker de protéines toutes les 3 heures, c'est bien. Comme Cristiano.
T'es un vrai barjon. On rappelle évidemment que Jonathan prépare un combat de boxe. C'est pour ça qu'il a cette alimentation. Même si, on le sait, depuis quelques jours dans sa vie, tu as tout le temps cette alimentation à base de boulgour, de quinoa ou
de l'antipoulet. L'antipoulet.
D'accord, très bien. On reparle de nourriture ce soir, pas la peine. En plus, on a un programme très chargé.
T'aimes bien, par contre, toi, parler. Je sens que tu devrais appeler Jean-Louis Tour, là.
Attends, mais moi, tu me proposes une émission
culinaire,
mais je signe tout de suite.
Jean-Louis, il est en Corse, là. Alors attention, la charcuterie et tout, on va le retrouver. Je sais pas comment on va le retrouver.
J'ai eu Jean-Louis, on s'envoie parfois quelques messages, et il m'a dit qu'il écoutait l'After tous les matins en train de courir.
Bien sûr.
Donc ça veut quand même dire quelque chose.
Ouais, ouais, bien sûr.
Il a quand même ce corps d'esthète.
Oui, c'est vrai.
T'aurais pas dit esthète, c'est ça?
On m'a trompé sur l'émission là.
Des piquions, rien.
Attends, Sébastien, tu penses que t'es où là?
Non, je me suis trompé, j'y vais.
Attends, mais t'as raison, c'est vrai que c'est l'After ce soir. Alors pardonnez-moi, le sommaire, dans quelques instants, les U19 qui n'ont pas réussi à passer le cut et qui n'auront pas réussi à viser la finale de l'Euro, on en parle dans quelques instants. Et puis la victoire de Bordeaux lors du match aller du deuxième tour préliminaire à la C3 1-0. À 21h20, la vie tranchée de Jonathan McCarthy sur les défenseurs centraux de l'Olympique de Marseille, il y a urgence. À 21h40, la vie tranchée de Samy Traoré sur l'arrivée de Leonardo à l'AC Milan. Une bénédiction, une grande nouvelle pour le club italien. À 22h, Marco Verratti va faire son grand retour avec le Paris Saint-Germain. Dans deux jours, face à Arsenal, est-ce la saison de la dernière chance pour lui prouver que c'est un grand joueur? À 22h20, toutes les informations mercato du jour. Et puis à 22h40, évidemment, le quiz avec une nouvelle fois deux places à gagner pour la rencontre samedi à Nice entre Chelsea et l'Inter Milan. On en reparle un petit peu plus tard dans cette émission. Appelez-nous d'ailleurs au 32-16 pour participer au quiz, mais également pour intervenir et apostropher nos amis dans cette émission, le hashtag RMC Live ou le compte Facebook et Twitter de l'émission. Tout va bien? Ça vous plaît comme programme?
Très bien.
Parfait.
Bravo. On parlera peut-être un petit peu de poulet quand même dans cette émission, non. Évidemment. Tout d'abord, l'image du jour. Il n'y aura pas donc de finale pour les Bleuets battus en demi-finale de l'Euro des U19 par l'Italie 2-0. Pourtant dominateur, les hommes de Bernard Diomède ont été punis par des Italiens très réalistes. 2 buts en 3 minutes à la demi-heure de jeu. L'Italie qui va retrouver le Portugal en finale. Les Portugais qui ont balayé l'Ukraine 5-0. Ce sera dimanche à 18h30. Tu fais la moue quand je dis des Italiens.
C'est vrai qu'ils ont été réalistes, mais en fait, ce qui ressort de ce match-là, parce que c'est vrai que ces Bleus nous avaient enthousiasmés, c'est que d'une part, ils marquent sur deux erreurs défensives de la charnière Sarr, Camara, qui avait été très solide jusqu'à présent. Les deux avaient fait un très beau tournoi, là, ils passent totalement à travers sur les buts italiens. C'est des cadeaux. Et ce qui a été assez surprenant, c'est que cette équipe, elle a fait preuve, et on s'en doutait pas, puis vis-à-vis des matchs qu'ils avaient joué avant, elle a fait preuve de beaucoup d'inexpérience. C'est-à-dire, on dribble là où il faut faire la passe, on fait la passe là où il faudrait dribbler. Et on les a pas reconnus. Je pense qu'ils sont passés à côté de leur événement. Plutôt qu'ils étaient passés à côté de la partie.
Ok, donc l'inexpérience pour toi, on rappelle évidemment que ce sont des U19, donc ils ont...
Mais par rapport à des Italiens qui ont fait preuve de beaucoup plus de maturité.
Mais est-ce que l'Italie aurait joué à la française un peu? C'est ça que tu veux dire?
Ça c'est un vaste débat.
Par rapport à la dernière Coupe du Monde
Non, parce qu'ils ont quand même... je pense que le mot qui leur va bien aux Italiens ce soir, c'est qu'ils ont été ultra réalistes, quoi. Et ils ont profité des erreurs françaises, ils ont capitalisé sur chacune de nos erreurs. C'est triste parce que c'est une génération qui est sympathique et qui a quand même beaucoup de talent avec des joueurs qu'on est appelé à avoir en espoir, je
Exactement.
Pense.
Et les hommes de Bernard Diomède ont eu énormément d'occasions de pouvoir revenir dans la partie, même dans les tout derniers instants de la rencontre. Et finalement, patatras, à chaque fois, ils ont manqué de réalisme devant le but. Samy.
Non, je n'ai pas spécialement pu voir le match. Mais sur le résumé qu'on vient d'apercevoir, c'est vrai que... Ils ont eu des occasions, ils les ont pas mises, on sait que c'est le haut niveau, il faut les mettre. Quand dans les temps forts, faut les mettre, après dans les temps faibles, faut essayer d'être costaud pour pas en prendre, mais là, sur leur temps faible, ils en ont pris deux, et deux en trois minutes, et c'est dur pour le moral, deux en trois minutes, c'est dur, surtout à des 19 ans, peut-être qu'ils ont pas encore cette expérience dont on parlait juste avant. C'est malheureux pour la France, comme Johan a dit, c'était une belle génération, mais il y a encore une belle génération qui arrive aussi, encore derrière, je pense aussi.
Et puis,
il y a le croire reconstruire avec eux aussi. Il doit y avoir des premières années aussi dedans. Donc, il y a quoi faire encore.
Franchement, Gouiri, Maolida, Sarr, qu'on a vu avec Nice, Bouba Camara, qui a appelé à jouer avec l'OM, c'est quand même des joueurs, je pense, qu'on verra en Ligue 1 cette saison, sans aucun doute.
Il y a une belle génération, quand même, là. Même si,
ils ont perdu
2-0 sur ce match-là, ils avaient démontré une force offensive, quand même impressionnante sur les deux derniers matchs de poule.
Deux fois
5-0. Je me rappelle de ma génération à moi où on avait perdu contre l'Italie en 99. Il y avait Henri et compagnie. Bon, ça n'a pas empêché que certains d'être
bien sûr.
Donc, voilà, ça peut arriver sur un match, sur une compétition. Ils n'avaient jamais perdu contre cette équipe d'Italie, cette génération-là. Elle avait dit Diomède. Malheureusement, ça arrivait en.
Faut saluer ça qui fait Diomède, parce qu'il c'est quand même, il fait quand même un boulot qui est très sérieux. L'équipe a vraiment montré des belles choses avant, donc c'est assez prometteur.
Exactement. Et on tente, je vous dis tout dans cette émission, on tente d'avoir Bernard Diomède. Forcément, après une victoire, c'eût été plus facile. Après une défaite, on va tenter de l'avoir par téléphone dans l'after pour qu'il nous parle un petit peu de cette défaite, désillusion certainement, même s'il y a des sources de satisfaction. L'autre match qui nous intéresse, c'est Bordeaux qui a débuté sur la scène européenne. Aujourd'hui, c'était en Lettonie face au FK Ventspils. Sachez que les Girondins l'ont emporté 1-0 grâce au premier but professionnel de Zaidou Youssouf dès la 3e minute. Magnifique coup franc. Si vous êtes également sur BFM Sport, vous avez pu admirer ce coup franc. 1-0 donc pour les Bordelais lors de ce deuxième tour préliminaire aller de la Ligue Europa. Pour RMC Sport, car oui, c'est en exclusivité, vous le savez, la Ligue Europa et la Ligue des Champions cette saison sur RMC Sport. Sébastien Piocelle, tu as commenté la rencontre. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Uniquement la victoire?
Déjà, c'est quand même le plus important pour se rassurer. Le fait qu'ils prennent confiance. Je pense que l'équipe de Bordeaux a perdu quand même des joueurs importants. On l'a souligné avec des joueurs comme Malcolm, comme Sabali qui est en passe de partir, peut-être Pablo. Meïté qui jouait l'an dernier aussi. Donc, il a donné la chance à certains jeunes qui ont répondu présent. À l'image de Youssouf qui a mis un super coup franc, qui a pris ses responsabilités. C'est important parce que ça faisait que 4 semaines qu'ils avaient repris, donc quelque part ils sont vraiment en phase de préparation. On pouvait pas leur demander beaucoup plus. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Ils ont plutôt bien géré le match et je pense qu'ils vont monter en puissance. Et bon, je pense que le match retour sera qu'une formalité pour poursuivre l'aventure.
Et le match retour c'est jeudi prochain et ça sera à suivre évidemment sur RMC Sport. Et c'est un vrai parcours du combattant pour atteindre la Ligue Europa. Puis il y aura un troisième tour préliminaire. Après il y aura un barrage pour pouvoir accéder à cette belle compétition.
Qui s'inspire de l'OM l'année dernière qui avait commencé contre Domzalé, il me semble, ou même peut-être au stand. C'était Domzalé au stand le premier. Non, comme contre Domzalé et qui au final ont été au bout. Marseille avait commencé pareil.
Domzalé dans la difficulté un petit peu aussi.
On se rappelle.
C'est jamais évident parce que là.
Difficile de retenir quelque chose, même si il y a eu un 5-3-2 de Gustavo Poyet. Il tente aussi des choses. Il avait tenté dans des matchs amicaux.
Mais ils ont joué à 4 derrière. Ça a été annoncé en fait à 5-3-2. Mais c'est le qui a joué à droite avec Pablo et Koundé dans l'axe.
Donc il avait pas gardé, j'avais cru comprendre qu'il avait gardé son schéma quand même de
Non, il a juste une demi-surprise, fait jouer de nouveau Sankaré attaquant.
Oui, exactement. Là, en espèce de faux neuf, c'était un peu bizarre.
Bon, alors est-ce que il lui sert vraiment? Est-ce que c'est un message qu'il envoie aussi à ses dirigeants? Il a quand même laissé Laborde
et Depréville,
ouais. Depréville sur le banc. Sankaré, bon, il a pas démérité, mais bon.
Mais c'est pas un attaquant.
Voilà, puis dos au jeu, autant quand il est milieu, il est capable de se projeter, aller marquer.
Voilà, il a pas les aptitudes, dos au jeu, ouais. De remise, de.
Mais est-ce que c'est un message qu'on l'a, déjà vu depuis le début de saison? Il a déjà, en conférence de presse, il a envoyé un petit peu les pieds au niveau de ses dirigeants.
Et comme quoi, le mercato n'avançait pas, parce que la vente, justement, n'avançait pas. On en reparlera d'ailleurs dans quelques instants. Ce sera ton avis tranché sur la vente du club qui peut peut-être, jeter un doute sur la saison bordelaise. Sur la rencontre, Jonathan.
Oui. Et écoute, c'est l'essentiel. Ce qu'on va retenir, c'est que ça gagne, hein, parce qu'on s'en a encore en tête le drame de l'année dernière. On l'a vécu en direct dans l'after contre Vidéoton. Après, c'est sûr que il y a pas grand-chose à retenir. Ils ont marqué vite, ils se sont mis à l'abri. Voilà, c'est une équipe qui a peu de certitudes. C'est une équipe qui a amené à bouger. Moi, si on se concentre sur le positif, c'est qu'il y a quand même ces trois jeunes, là, Youssouf, Tchouaméni et Koundé, qui font vraiment le taf. C'est des jeunes qui sortent du centre de formation, qui c'est des produits de la maison bordelaise et qui, Koundé, on l'avait vu déjà l'année dernière, mais là, j'ai trouvé vraiment que Youssouf et Tchouaméni avaient fait des très bon match, et je pense que c'est des jeunes qu'on est amené à revoir dans leur rotation. Après, ce qui apparaît, c'est qu'il y a vraiment des postes où il faut recruter. Devant, on l'a dit, et surtout, je pense que Plasil, il fait vraiment son âge.
Je pense qu'il faut recruter sur toutes les lignes.
Attends, c'est Bordeaux,
un
9, quand même. On
un 6
parle de Bordeaux.
Et un défenseur central, c'est impératif.
C'est pour ça que je te dis qu'il faut recruter, à mon avis, sur toutes les lignes.
Un 9, un 6 et un défenseur central.
Vertébrale, on parle de Bordeaux qui a fini 6e, qui s'est arraché pour justement se permettre de jouer ses tours préliminaires. Donc, ils vont vouloir quoi? Ils vont vouloir faire au moins aussi bien. Aujourd'hui, c'est compliqué.
Mais déjà, par rapport à l'effectif de l'année dernière, il s'est amoindri.
Ah bah bien sûr qu'il s'est amoindri.
Donc forcément, il va falloir vite.
Ils vont recruter, mais en plus, au niveau du timing.
Il va falloir recruter vite et intelligent, justement.
L'avis tranché de Sébastien, tu voulais nous parler de cette saison bordelaise à travers aussi cette vente qui n'avance pas. On sait que Nicolas de Tavernon en a parlé il y a quelques jours. Il a dit que ça pourrait être plus ou moins rapide, cette vente. Est-ce que ça pourrait se faire? On ne sait pas encore, à des investisseurs américains. Vas-y, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire?
Il attend pas rapide, parce que aujourd'hui j'ai pas envie de tacler Bordeaux, parce que c'est un club qui fait partie du patrimoine français, mais je pense que la vente du club, si elle se fait, et elle risque de se faire, elle risque de plomber la saison des Girondins. En plus, le fait de jouer les tours préliminaires de Coupe d'Europe, c'est jamais évident. Après, on a souvent un contre-coup ou mental, comme l'an dernier, où ils avaient perdu et ça leur avait mis un coup de massue. Ils s'en sont jamais...
Même physiquement.
Voilà, et ensuite, au niveau du mercato, justement, ils ont certainement loupé des joueurs. Justement, par rapport à la situation du club.
Clément Grenier, par exemple, qu'on a eu hier. Ça aurait pu être un joueur qu'ils auraient pu
La stabilité. De toute façon, tu s'abalais, tu peux pas le garder.
Il y a un problème de stabilité. On ne sait pas où ce club va.
Pareil, de l'extérieur, j'ai l'impression que depuis le dernier titre, qui commence à dater, si c'est
10 ans.
J'ai l'impression qu'ils ont jamais réussi derrière à surfer sur ce titre et à investir ce qu'il fallait. En gros, ils se sont mis dans la position, donc les propriétaires actuels, le M6, comme ils disent souvent, bon père de famille, bon gestionnaire. Mais à l'arrivée, on parle de Bordeaux, on parle pas d'une équipe qui doit jouer le maintien, qui change d'entraîneur
Bordeaux
tous les deux
habitué,
ans.
Bordeaux est habitué, normalement, à jouer l'Europe toutes les saisons.
Qui fait que de se tromper, finalement. Parce que quand on change d'entraîneur régulièrement, c'est que, quelque part, on se trompe aussi.
Ils ont 6 entraîneurs depuis le titre. Depuis le départ de Laurent Blanc, c'est 6 entraîneurs.
Et là, j'ai bien peur que le coup de massue arrive avec cette vente-là qui devrait se faire maintenant. En termes de timing, c'est terrible pour eux. C'est terrible parce que ils vont forcément recruter un petit peu. Pourquoi aussi absolument vendre Malcolm de suite à ces prix-là? Est-ce que M6 veut se rembourser un petit peu? Je ne sais pas exactement ce qui se
cache. Il va falloir qu'ils vendent le projet. Est-ce que le projet est fiable? C'est ça le problème.
Samy, je pense que là on est...
De nos jours, qui Bordeaux peut recruter de très bons joueurs?
Déjà, je pense qu'on en discutait avec Sébastien avant l'émission, c'est que on n'est pas vraiment dans le même type d'investisseur que les investisseurs par exemple, que Franck McCourt, qui est un passionné de foot, qui investit dans le Sportif. Là, c'est un fonds d'investissement, apparemment. Je pense déjà qu'ils viennent à Bordeaux, c'est peut-être pas juste pour le football, déjà. Il y a peut-être l'attractivité autour de la région qui les intéresse. Après.
Comme un peu partout, des fois.
Ouais, bien sûr. Comme bah les Qataris à Paris, c'était voilà, on sait que c'est t'achètes la marque Paris. Bordeaux, c'est une marque.
Le vin,
c'est les vignobles, c'est une région qui est dynamique, c'est une région qui est en plein développement économique. Il y a des pôles de compétitivité qui se développent autour. Il y a le stade, c'est vrai que c'est voilà, il y a quand même ce qu'il faut. Après, pour les joueurs, je sais que le tableau évidemment il est un petit peu noir, mais ça reste quand même un club qui à mon sens attire les joueurs. Pourquoi? Parce que t'as le cadre de vie. Tu sais que quand tu vas à Bordeaux, bah tu vas avoir une vie qui est agréable. Hein. Il y a le climat, t'as les installations qui sont de bonne qualité.
Non, mais ça, c'est pour moi, c'est pas que du positif, ça, parce que si on écoute.
Bien sûr, mais pour attirer des joueurs.
Ça ronronne après.
Ouais, mais non, mais. Pour attirer des joueurs, je pense que ça joue quand même. Et ça reste quand même un nom assez important du je sais pas comment ça se fait, mais c'est vrai que comme on le dit, ça fait 10 ans qu'ils sont réunis, mais ça reste quand même un nom qui plaît quand même.
Bah, vous, les anciens footballeurs professionnels, alors t'as joué à Nice, donc forcément ma question va être un peu biaisée, mais.
Non.
Entre Nice et Bordeaux, aujourd'hui, franchement, il y a 10 ans entre Nice et Bordeaux, tout le monde va à Bordeaux 1000 fois. Ok. Entre Nice et Bordeaux, Sébastien Piocel, t'es encore en activité, t'as les deux, même salaire, tu vas où?
Moi, je vais à Nice, même si j'ai joué à Bastia. Je sais qu'il y a... Mais je vais à Nice aussi parce que pour l'ambiance, pour le vrai projet qu'il y a aussi
derrière. C'est le projet qu'il faut
monter. Ok, il change d'entraîneur, mais on sent qu'il y a une réelle continuité. On sent qu'ils savent vraiment où ils vont, les dirigeants. Voilà, et ils ont toujours un coup d'avance, toujours, voire deux coups d'avance. Ils arrivent à réaliser des ventes importantes tous les ans.
Oui.
Alors là, on va dire Malcolm aussi, c'est une belle vente. Moi, aujourd'hui, Bordeaux, ça reste un grand club. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça reste une belle ville, le nouveau stade. Mais j'ai l'impression que ça ronronne, en fait, et que des fois les joueurs, ok, on va à Bordeaux, il y a un peu moins de pression. C'est tout ce qui ressort à chaque fois.
Mais j'ai l'impression que ça fait quelques années que l'on dit que Bordeaux ronronne.
Bah, depuis la fin du titre, depuis après le titre depuis 2010.
Ça a été mal géré, le départ de Laurent Blanc, ils prennent Sigana, ça marche pas. Gilot arrive, il les stabilise, mais c'était un vrai, véritable somnifère.
Après, il y a Willy Sagnol, après, voilà. Il y a Jocelyn Gourvennec,
Et il y a Bédoué qui a pris entre temps, Ramé aussi. Ils ont fait 6 entraîneurs, mais, il y a aussi, il faut souligner le fait qu'ils sont pas mal plantés en termes de recrutement. Là, par exemple, cette saison, ils démarrent. Otavio et Cafu, c'était quand même des achats qui étaient importants relativement au budget de Bordeaux. Cafu était même pas retenu. Et Otavio est rentré en fin de match.
Ouais, mais plus tu changes d'entraîneur, et les entraîneurs, ils aiment un certain style de joueur. Donc si tu changes tous les deux ans, eh ben,
ils ont jamais vraiment joué.
Sagnol, il va aimer tel joueur, et puis Gourvennec, il arrive, il va préférer tel joueur.
Puis, à l'arrivée,
il n'y a pas vraiment de continuité.
Avec Gourvennec ou avec
Pourtant, Bordeaux travaille bien en jeune. Donc là, c'est peut-être aussi une solution.
Mais tout à l'heure, on parlait avec Luigi de. Il y a un directeur général? Il y a quelqu'un qui s'occupe
c'est Ulrich Ramé.
Il y a le président.
C'est Ulrich Ramé. Mais après, ça peut être aussi une chance. On l'a vécu, moi je l'ai vécu à Nantes et même ma génération d'avant moi comme Pedro Swedek. Quand il y a une opportunité pour les jeunes, s'il y a de la qualité, alors des fois ça peut ne pas marcher, mais c'est aussi la possibilité de lancer. Alors c'est sûr que si on en lance 10 d'un coup, ça devient compliqué.
Il faut avoir
compliqué.
Des cadres pour les accueillir aussi au-dessus.
Exactement.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de cadres pour les accueillir.
Mais ça peut être aussi une possibilité
c'est un très bon joueur. T'en as pensé quoi, toi, des trois, là, Youssouf, Tchouméné et...
Youssouf, on l'avait vu un petit peu l'an dernier, donc je suis pas surpris parce que c'est quelqu'un qui vient facilement.
Tchouméné,
c'est le premier match que je vois de lui.
Il a une belle impression quand même.
A priori, c'est vraiment la petite pépite du club. Et bon, sur ce match, il a fait un bon match. Il a été cohérent. Il est puissant. Il est grand. Il sait aller de l'avant aussi. Il a été intéressant. Et puis Koundé, il a fait partie quelque part. Il a barré un peu Bayce aussi l'an dernier. Dès l'instant où il a commencé à jouer, il est plus jamais sorti. Avec Pablo, ils ont stabilisé la défense.
Je pense que
s'il
fait une bonne saison, lui, il va pas rester.
Plus Pungé, qui est aussi un pur produit du club, qui vient de prolonger, avec qui j'ai joué à Nîmes, qui est vraiment un latéral gauche de moderne. Non, il y a de quoi faire, mais comme disait Samy, là, pour moi, il te manque
une colonne vertébrale,
joueurs,
un 6, un 9, joueurs, un central et un latéral.
Et là, il y a aussi un autre truc, c'est que là, ils ont bien vendu. Je parle financièrement, ils ont bien vendu. Il faudrait pas qu'ils se fassent avoir aussi sur l'achat des joueurs. C'est-à-dire comme ils savent qu'ils auront pris un peu de thunes.
Oui, évidemment. Que t'arrives avec des joueurs.
J'ai entendu un joueur là, je crois que c'est un Croate, non? Un milieu de terrain Croate qui a joué 20 minutes à la Coupe du Monde.
Ouais. Exactement.
J'ai lu un peu des trucs sur lui. Alors, encore une fois, c'est ce que je dis. Bon, ils parlent de 6-7 millions d'euros, un truc comme ça, pour le faire venir.
C'est beaucoup pour Bordeaux, c'est un achat conséquent.
Il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est un bon genre de complément, quoi.
Ouais, exactement. Bon,
bah, 6-7 millions d'euros.
6-7 millions, faut pas que ce soit complément, faut que ce soit titulaire.
Au milieu,
et ça peut barrer, en plus, peut-être, la possibilité à un jeune de
Il faut vraiment un profil particulier, parce que je pense que des milieux relayeurs, ils ont Tchouaméni, mais bon, ils ont leur Hajard, qui, je pense, qui, après une saison d'adaptation, c'est un bon joueur. On l'a vu aussi à la Coupe du Monde, c'est vraiment un bon petit joueur. Sans carré, va pas toujours, il faut le mettre au milieu, c'est
sûr.
Donc, il faut qu'il prenne un joueur,
oui, une sentinelle. Si on joue à 3 au milieu, comme voilà. Ça, il faut qu'il reprenne une sentinelle, parce que Plasil peut faire le taf.
Il a 36 ans.
Il va avoir 37 ans, et ça reste un bon joueur, mais il faut quand même le mettre, et en concurrence, et au moins qu'il y ait un turnover par rapport à ce poste-là.
Et ouais. Tu parlais de Filip Bradarić, hein, le Croate, qui était dans la liste des 23 finalistes de la Coupe du Monde. Un transfert pourrait être trouvé, un accord pourrait vite être trouvé, pour un montant environ de 6 millions d'euros. Voilà pour cette information que tu nous donnais. Damien nous appelle au 32-16, justement, il veut réagir après aussi ton avis tranché, mais sur cette victoire bordelaise. Bonsoir Damien.
Bonsoir messieurs Drouet, Macardy, Piocel et Traoré.
Bonsoir. Salut Damien. Bonsoir.
C'est quoi ton nom à toi? Parce que là on est battu. Mais c'est quoi ton nom à toi? Parce que tu cites nos noms, moi j'ai que Damien.
Ah ben c'est Damien.
Damien. Ok, comme François Damien.
Non, c'est comme Bora Bora.
C'est comme Bora Bora.
Tu as vu le match, tu en as pensé quoi?
Au départ, je me suis dit, bon, déjà il y a eu la composition qui était très bizarre, avec Sankaré en 9, Youssouf à droite. Bon, je me suis dit, avec Poyet, c'est sûrement que les attaquants manquaient d'implication à l'entraînement ou manquaient de niveau tout simplement. On l'a vu l'année dernière. De Préville, c'était assez fantomatique. Laborde, ça restait plutôt moyen. Et puis bon, il râle beaucoup, il pleure beaucoup. Donc en fait, je me suis dit que bon, Sankaré, c'était peut-être la moins pire solution. Donc Sankaré, on l'a vu. Bon, au début du match, c'était assez appliqué, on va dire, de la part de Bordeaux.
Tu l'as trouvé bon Sankaré, pardon, au poste d'attaquant?
Non, mais quand j'ai vu rentrer De Préville et Laborde, j'ai compris pourquoi il avait mis son carré en attaque. Quoi.
Ouais, mais à la mi-temps, ils avaient 3 tirs chacun, les Lettons et les Bordelais. Et quand ils sont rentrés, il y avait 7 tirs pour Bordeaux. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas eu de but.
On peut voir la tête des tirs aussi.
Ouais, il y en a un qui est passé pas loin. Bon, après, ouais. C'est toujours pareil. Les attaquants, à un moment donné, c'est encore plus pour eux. Ils sont... Il fonctionne par période. Alors c'est sûr que plus ou moins longue. Je comprends. J'ai vu un petit peu la saison dernière et c'est vrai que De Préville est passé à côté par rapport au transfert en plus qui était assez important. Mais en même temps, c'est une valeur marchande. Il a coûté quand même assez cher.
Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à Bordeaux et qui perdent leur football.
Oui, mais il faut qu'il joue ou alors il faut qu'il le fasse partir. Mais c'est vrai que pour moi c'était aussi un message envoyé peut-être ou aux dirigeants ou alors peut-être comme tu dis aux deux attaquants qui faisaient pas ce qu'il fallait.
Pour Nicolas De Préville, on parlait souvent du schéma de jeu. Et seul en pointe, ça pouvait être compliqué pour lui. Il a mieux terminé qu'il n'avait commencé quand même, parce qu'il a eu une longue période de disette avec les Girondins de Bordeaux. Damien, on l'a dit, on le répète, Bordeaux, c'est le premier club français sur le pont cette saison. Le parcours est long durant cet été. On a l'impression que le mercato, en tout cas les achats, ça n'avance pas. Est-ce que toi, ça t'inquiète? Et d'après toi, Bordeaux doit recruter où?
Ils doivent recruter un peu partout en fait, parce que j'entendais parler d'un défenseur central. Là, au final, bon, Pablo Koundé, c'est un peu la seule certitude qu'on a dans l'équipe actuellement. Là, le recrutement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont vendus. Mais à côté de ça, les dirigeants, ils font les autruches. Depuis, on dirait qu'ils laissent le club en jachère depuis qu'il y a les discussions pour la revente. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas vraiment d'annonce. Bradarić. Effectivement, qui doit éventuellement venir. Déjà, bon, c'est vrai que c'est pas donné pour Bradarić, mais en plus, il semblerait qu'il ne vienne pas, parce que il y a des doutes sur sa capacité d'intégration au club. Donc il y a ce souci-là. On nous parlait aussi de Reyes. Bon, Reyes, d'accord, apparemment Pablo resterait, donc Reyes ne viendrait pas. Mais c'est le problème, c'est que le au niveau du 9, ça fait un an que Bordeaux cherche. Il y avait eu Braithwaite qui était venu avec d'ailleurs l'annonce des dirigeants comme quoi l'année prochaine, enfin donc cette année, Bordeaux pourrait recruter un neuf pour entre 10 et 15 millions d'euros. Là, bon, bah, on attend toujours. Il y a aussi les ailiers, parce que Camano, bon, c'est bien, mais c'est le problème.
Il n'a pas confirmé l'année dernière.
c'est un profil technique qui n'est pas technique en fait. Donc c'est bien.
C'est un bon joueur. Quand
il
même,
dit c'est un profil technique qui n'est pas technique. Quand même, il a de la rapidité.
Il
est un peu maladroit de temps en temps, mais quand même.
Non, mais il va vite, mais il manque d'intelligence de jeu et puis c'est 15 passements de jambes en arrivant devant le défenseur sur le côté qui servent à rien. Donc
ça, après, tu as aussi les joueurs que tu peux avoir. Hein. Je veux dire, si dans ce cas-là, tu as que des phénomènes, bon, ils viennent pas forcément à Bordeaux aussi. Pour moi, Camano, ça reste vraiment un joueur intéressant. Alors,
ouais, il a des qualités quand même.
Peut-être qu'il faut qu'il confirme. Il s'est éliminé.
Il est jeune aussi, non?
Ouais, il est encore jeune. Il doit avoir 23 ans.
Il faut savoir bien chercher aussi. Enfin,
le mot de la fin, Damien.
Bordeaux, je trouve que Bordeaux, vraiment, depuis facile 10 ans, déjà le titre, il y a 10 ans, on dirait qu'il n'était pas prévu. C'était vraiment parce qu'il y avait Laurent Blanc. Et d'ailleurs, Laurent Blanc a voulu essayer de faire passer le Marceau Club. Et de suite, les dirigeants, ils ont freiné les quatre fers. Mais là, c'est Brigitte Bordeaux, en fait. C'est-à-dire, on se repose sur le passé où c'était magnifique, c'était restant. Et on vit que sur les histoires. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est le club est vraiment redescendu. Il passe derrière Rennes, il passe derrière beaucoup de clubs. Donc, il y a toujours l'histoire. Mais aujourd'hui, plus personne ne sait chercher, même de bons joueurs. Je vois Nice avec des budgets inférieurs. Je vois d'autres clubs. Il y a même Saint-Etienne.
En l'occurrence, ils ont fini sixième quand même.
À se bouger, mais oui, sixième, mais bon, faut voir comment. Enfin, l'année dernière, j'entendais hier le super avis tranché de Jonathan Bacardi sur le beau jeu. Le problème, c'est qu'à Bordeaux, il n'y a pas vraiment d'identité de jeu. Ça part un peu. Enfin, sixième dans un contexte constant, quoi.
C'est vrai, Damien.
Merci en tout cas, Damien. On a longuement parlé de Bordeaux. J'imagine quand tu parlais de la vie tranchée, du bel avis tranché de Jonathan, tu étais ironique, non ?
Non, j'ai trouvé ça très bien. J'ai le même avis. Je trouve que l'analyse est très bonne et non, c'était très intéressant.
D'accord. Mais il est méchant, regarde un peu là.
Alors, j'ai l'impression, Damien, pardonne-moi, tu as un peu le moral dans les chaussettes. Donc, je t'offre un magnifique bouquin sur les Bleus champions du monde, la fabuleuse histoire du deuxième sacre mondial de l'équipe de France. Ça te fait plaisir?
Ah, super. Ah oui, merci beaucoup. Oui.
Ouais, il y a des belles photos en plus.
Exactement, un magnifique livre. Voilà, j'espère que ça va te faire patienter un petit peu pour voir des jolies images de Bordeaux. À bientôt sur RMC, évidemment, au 32-16. Soyez sympa avec moi. Je vais peut-être en offrir un autre d'ici la fin de l'émission. Je le couperai en deux parce que là j'en ai plein. Bon, bref, dans quelques instants, ce sera la vie tranchée de Jonathan McCarty qui va nous parler de l'Olympique de Marseille, battu hier en match amical face au Betis Séville. Mais au-delà de ça, un petit souci avec cette charnière centrale.
Gros souci.
Voilà, alors attends, on va voir.
On va voir la vie tranchée. Et puis après, dans quelques minutes, il y aura aussi celui de Sabine Traoré sur la venue de Leonardo à l'AC Milan. A tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Il est 21h30, vous écoutez, vous regardez aussi l'after disponible sur BFM Sport, sur notre site bfmrmcsport.fr, toujours avec Sébastien Piocelle, avec Jonathan McCarty et avec Samy Traoré pour passer une soirée de folie. Venez nous interpeller au 32-16. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Dans une petite heure maintenant, nous parlerons du mercato et à l'occasion du match préparatoire pour l'International Champions Cup entre Chelsea et l'Inter Milan. Il y a un jeu toute cette semaine, je vous offre vos places pour assister à cette rencontre, que vous soyez plutôt anglais ou italien. Sachez qu'il y a deux places à gagner pour Chelsea-Inter samedi 28 juillet à Nice. Allez encourager l'équipe de votre choix pour ce jour, dans deux jours donc, pour remporter vos places. Envoyez after au 732-16, after au 732-16. Deux places également à gagner dans le quiz du soir à partir de 22h40. Appelez le 32-16. Tout de suite, c'est la vie tranchée de Jonathan McCarty.
Elle du bisounours Seyit, quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins, la déception un petit peu conjoncturelle de cette non-qualification, c'est que t'aimes pas ce Monico mais pénalise l'équipe.
Là j'ai tout compris.
Ah oui, on a toujours tout compris, forcément il fait un petit peu mal au crâne, mais ne vous inquiétez pas, elle a toujours des avis bien tranchés, bien préparés également, et là j'ai envie de dire Jonathan, comme dirait Isabelle Nanty, il y a un gros problème en défense.
Écoute, quand on regarde le match, les matchs de préparation de l'OM, et notamment le match de préparation d'hier contre le Betis Séville, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette défense centrale olympique de Marseille? Il perd 3-2 sur des erreurs, des cadeaux de la défense. Abdennour catastrophique, ou Boatchan qui est catastrophique. Je mets Amavi de côté, qui joue pas en défense centrale, mais qui a lui aussi fait un très mauvais match. En gros, quand on regarde un petit peu le panorama des défenseurs centraux qui vont être disponibles pour l'OM pour la reprise du championnat, c'est pas joyeux. Tu diriges vers une charnière Abdennour ou Boatchan s'il est toujours là, ou Abdennour Sertić s'il est remis. Bref, quand tu regardes ça, tu te dis oh là là, il y a urgence, parce que tu vas recevoir Toulouse et tu vas aller à Reims, à Nîmes, sans aucune certitude derrière. Le problème, en fait, c'est que quand tu regardes l'effectif et la structure de l'effectif, tes quatre défenseurs centraux dont tu vas avoir besoin pour faire toute ta saison, tu les as. Rami, Char, Rolando qui va reprendre, et Bouba Camara qui s'est fait sortir en fin d'après-midi et qui va donc reprendre beaucoup plus vite avec l'OM. Donc le problème pour l'OM, ça va pas être vraiment de réformer, de changer totalement la structure de son effectif, mais ça va être d'essayer de commencer la saison de la meilleure des manières avec les ressources que t'as à disposition. Et en l'occurrence, pour commencer la saison, des ressources, tu vas pas en avoir beaucoup. Donc il va falloir que Rudy Garcia bricole. Mais mon avis tranché de ce soir, qui va être sûrement plus court que d'habitude, mais c'est de dire que le vrai souci de l'Olympique de Marseille, c'est d'une part d'arriver à bricoler, mais je pense que t'as les moyens de bricoler. Il y a des solutions, elles existent, hein. Bouba Camara revient, tu peux faire redescendre Luis Gustavo d'un cran sur un match, sur un ou deux matchs, donc tu peux partir avec une charnière Gustavo Camara qui tient tout totalement la route. Et d'ailleurs, petite anecdote, Garcia a avoué qu'il a regretté en finale de Ligue Europa de ne pas avoir mis Bouba Camara en défense centrale. Donc t'as quand même des joueurs pour faire le taf sur les deux premiers matchs, mais il va falloir pas non plus louper, parce que quand tu fais redescendre Luis Gustavo d'un cran, eh ben il faut pas habiller Paul pour déshabiller Jacques, parce que souvent tu te sens qu'au milieu de terrain quand Gustavo n'est pas là, c'est problématique. Donc l'avis tranché que j'ai ce soir, c'est de dire que Marseille va devoir bricoler en défense, mais surtout, quand on regarde un petit peu la composition, la structure de l'équipe, la priorité numéro 1 de recrutement, c'est pas derrière, parce que ça c'est conjoncturel, hein, c'est la Coupe du Monde qui fait que t'as pas Char et Rami, mais il faut recruter absolument au milieu. Luis Gustavo, pour l'instant, il n'a pas de doublure. On parle de Zambo Anguissa qui a fait une très bonne saison l'année dernière, mais c'est pas non plus le même profil. On a Morgan Sanson qui a fait une très bonne saison l'année dernière, mais c'est pas le même profil. Il faut impérativement recruter un joueur qui soit purement défensif et qui soit capable de faire le taf quand Gustavo n'est pas là. Donc la priorité numéro 1 de l'OM, c'est pas de prendre derrière, parce que ça, je vois tout le monde s'enflammer, être super inquiet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les forums de supporters olympiens. Non, c'est deux matchs, c'est circonstanciel, il y a pas de problème. Par contre, au milieu, attention, Luis Gustavo est toujours tout seul. Quand il va falloir redescendre pour jouer derrière, eh ben, il y aura encore plus personne. Donc moi, j'espère que Marseille va absolument recruter un milieu de terrain. On parle de Morgan Schneiderlin, ce serait le profil idéal. Donc attendons de voir, mais c'est la priorité.
Tu l'appelles Schneiderlin, toi?
Schneiderlin, excuse-moi.
Non, mais si
Schneiderlin, je sais pas comment on le dit, mais en tout cas, c'est la bonne idée. C'est lui qu'il faut prendre. C'est le profil idoine. Il faut un joueur qui soit capable de jouer à la fois milieu et à la fois derrière. Lui, il est capable de jouer à ces deux postes-là.
Moi, je pense que pour l'Olympique de Marseille, ils peuvent trouver meilleur que Schneiderlin.
Ah bon?
Je pense.
Pourquoi? Peut-être Schneiderlin.
Peut-être.
Pourquoi tu dis ça?
C'est un milieu de terrain qui ratisse beaucoup, énormément de ballons. C'est l'un des plus gros tacleurs du championnat anglais, d'après ce que j'ai pu lire. Mais dans ce que je vois pour Marseille, je pense qu'ils peuvent attirer un joueur avec plus d'expérience. Et
international.
Ah oui, meilleur.
Qui a été dans l'équipe type de première ligue, il me semble.
Oui, il y a trois ans.
Il y a trois ans. Qui a juste eu la malchance d'aller à Manchester United sous Van Gaal, et donc ça s'est très mal passé.
C'est un choix de carrière.
Samy, il est arrivé à Manchester, c'était la faute à pas de chance, tu vois. Enfin, il est arrivé dans la plus mauvaise période de Manchester.
C'est vrai qu'il arrive dans un club un peu en difficulté.
L'année dernière, hein, à Everton, c'est pas mal, hein, ce qu'il fait. Hein.
Moi, je pense que c'est en défense qu'il faut recruter.
Mais tu les as, les quatre.
Ouais, mais
il leur faut une colonne.
Il a quand même un âge avancé et c'est une grosse blessure, donc tu sais pas quand tu l'auras.
Quatrième défenseur central.
Ouais.
T'es jamais sûr de savoir comment il va revenir.
C'est le numéro 4.
Moi, je pense qu'il faudrait plutôt un défenseur central gaucher, qui soit capable justement peut-être de jouer dans l'axe et à gauche. Un peu ce qu'aurait pu faire Doria. Pour moi, Gustavo, il faut laisser au milieu. Pour moi, quand on dit dépanner, ça veut bien dire ce que ça veut dire, dépanner.
C'est énorme derrière aussi. Hein.
Il est énorme, mais
t'auras
pas meilleur au milieu. Donc il vaut mieux le laisser au milieu et prendre peut-être un défenseur un peu en devenir. Alors j'ai pas de nom.
Seb, mais tu les as.
Oui, mais bah, Camara, il peut jouer
Rami,
aussi.
T'en as trois de mon défenseur central là. Camara au milieu, non, ça c'est
un défenseur.
Rami, il est pas là. Char, il est pas là. Alors c'est sûr qu'ils vont revenir, hein, mais en tout cas Rolando.
Et mon attaquant de pointe, vous le mettez où dans tout ça? Vous le portez
attends, attends, ça c'est un autre chantier.
Vous me parlez de recrutement. La priorité, j'entends priorité défenseur central. Puis après j'entends priorité au milieu.
Non, les défenseurs centraux, les défenseurs centraux, pardonnez-moi, on a compris que c'était fait avec le Croate.
Pour moi, il n'y a pas recruté derrière. Les quatre, tu les as. Après, on peut discuter de la qualité des quatre.
Donc
pour moi, les quatre, tu les as.
On peut recruter au milieu.
Moi, je pense que la priorité maintenant, c'est de recruter. Et devant, je pense que Mitroglou va mettre 15 buts.
Mais non, arrête tes bêtises.
Mitroglou va mettre 15 buts.
Après Mitroglou, là
faut
aussi
être sérieux, 30 secondes, non, on parle de l'attaquant vedette de l'Olympique de Marseille.
Je dis pas qu'il va mettre 15 buts, mais bon, sur une deuxième saison, peut-être le temps de s'acclimater. Il a toujours marqué, hein, partout où il a été.
Exactement.
Et puis il a été plutôt intéressant sur la deuxième partie.
Mais championnat français, c'est pas championnat grec,
les amis, quand même. Une préparation. Ouais, il a marqué en Ligue des Champions aussi, Samir.
Non, il a fait une belle. Attention, je le suis depuis la Grèce. C'est un très bon joueur. Et c'est un finisseur, il faut l'alimenter, c'est pas lui qui va décrocher, qui va se retourner, qui va mettre une patate pleine lulu, c'est pas ça.
Il faut
l'alimenter.
À côté de ça,
je vous dis qu'il met pas 15 buts dans la saison l'année prochaine.
Peut-être 15 ou il mettra 12 entre 12 et 15 buts.
Bafegomi, il a mis combien de buts?
Il
mettra entre 12 et 15 buts, pourquoi? Parce qu'il est arrivé, il était blessé. Il était en méforme. Là, il arrive, il a une préparation physique dans les jambes. Il est débarrassé de sa blessure. Et surtout, il va jouer là vraiment en confiance parce qu'il a déjà marqué 3 buts lors des préparations et il va jouer quand même avec des joueurs de ballon avec Vlotovin,
la seule chose
avec Payet,
c'est
savoir
s'il recrute un attaquant.
Bah, ce sera un bon numéro 2. Tu joues sur cage.
Donc Marseille va recruter un attaquant pour être numéro 2.
Numéro 1. Mais Mitroglou.
Non,
Mitroglou,
c'est numéro 2. Il y a aussi Germain
est essayé sur le côté.
Évidemment, il y a Valère Germain, évidemment, il y a Mitroglou, et on parle depuis quelques semaines, et assez dans l'after pour le savoir, le cas Mario Balotelli. Pour l'instant, il n'est pas encore là, mais on sait que le dossier de l'attaquant, c'est un des dossiers prioritaires.
C'est le dossier prioritaire pour moi.
On ne va pas y revenir tout de suite, car on parlait aussi de la défense et de ses absences, évidemment.
Ouais. Mais Samy, toi, tu
malheureuse pour
le tu nous souhaites du mal, c'est pour ça.
Pourquoi je souhaite du mal?
Mais je rigole.
Je souhaite pas du mal.
Pour moi, la priorité, c'est vraiment au milieu.
C'est tout, de faire plaisir à toute la France.
La priorité, c'est vraiment un milieu de terrain.
Christophe, supporter de l'Olympique de Marseille, nous appelle au 32-16. Bonsoir Christophe.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Christophe.
Tu voulais nous dire quoi sur ce mercato et puis peut-être interpeller Jonathan sur son avis tranché?
Non, j'ai bien aimé l'avis de Jonathan, je suis assez d'accord avec lui. Moi, je pense que le mot pour le mercato, là, moi, je pense qu'il faut être encore un peu patient.
Bien sûr.
C'est une période de Coupe du Monde, c'est pas évident. Même en regardant tous les autres clubs, il y a quand même pas beaucoup de mouvements. C'est pas un mercato qui est évident. Je pense qu'on ne peut pas jeter toutes nos pierres là d'un coup. Je pense que Balotelli, ça va se faire quoi qu'il arrive. Je pense que ça va arriver quoi qu'il arrive.
Christophe, ça t'es pas pensé à Payet, la gestion du transfert de Payet?
Oui, un peu.
Où Marseille a pas baissé son froc devant West Ham pour pas surpayer le joueur.
Oui. Et d'ailleurs, faut reconnaître que c'est quelque chose qui à l'OM existe que depuis 2 ans, parce que ça, on avait l'habitude de baisser notre frog, de dire oui, amen, et ça arrivait tout le temps. Mais par contre, tu disais pour derrière, il n'y a pas besoin de recrutement. Je suis d'accord pour les centraux. Par contre, il faut vraiment quelqu'un côté gauche.
Ouais.
Parce que à ma vie, je ne parle pas du match de préparation. Hein. Oui, mais c'est un match de préparation. Il revenait de blessure. Je veux pas l'accabler pour ça. Mais si on reprend les 6 derniers mois qu'il a fait. Là, par contre, c'était plus alarmant.
Il a
les
fait 2 mois
d'année, ils sont pas bons.
Il n'y a pas de doublure à gauche?
Bah, il y a Christophe Rocca.
Ouais, qui est jeune.
Moi, j'aime bien Rocca.
Il est intéressant.
C'est intéressant, mais c'est jeune. Et j'avais une autre question.
Du coup, au bout d'un moment, il va falloir qu'il prenne son
derrière. Christophe, tu avais une question?
Oui. Pour Joe, du coup, si, parce qu'on n'en parle pas trop, mais on n'a pas de remplaçant ni en ailier gauche, ni en ailier droit. Et on n'a pas un seul bruit qui sort à ce sujet.
Je pense qu'ils attendent de voir ce qui se passe avec Cabella déjà. Cabella
ouais,
a joué.
Cabella, il aime pas jouer sur le côté, quoi.
Bah, je pense que de toute manière, s'il veut rester à l'OM, il faudra qu'il joue sur le côté. Hier, il a été intéressant en jouant.
Oui.
Je l'ai trouvé vraiment en jambes. J'ai trouvé qu'il avait été très juste dans ce qu'il proposait. Après, bon, c'est vrai qu'Ocampos pour l'instant est blessé et on attend de voir quand est-ce qu'il va revenir. J'ai bien aimé, même si c'était un petit peu contre nature, j'ai bien aimé le test qu'il a fait avec Valère Germain dans le couloir. J'ai trouvé que c'était intéressant, qu'il apportait quand même quelque chose de différent, un registre différent par rapport aux joueurs de percussion qu'il y a.
Ah, ça c'est sûr, c'est pas dans la percussion qu'on le verra, mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler, alors que c'est vrai qu'Ocampos il joue beaucoup sur sa grinta et tout. Après il y a toujours NJ qui peut jouer sur un côté, mais après sans être méchant, en QI foot c'est pas exceptionnel NJ quoi.
Il a été bon hier sur son entrée.
Oui, d'accord, mais regarde les trois matchs d'avant aussi.
De toute manière, Christophe, ce qu'il faut, c'est, je pense qu'il y a des chantiers prioritaires. Il y a un milieu et un neuf. Et après, tu verras l'enveloppe, tu verras les opportunités. Mais c'est vrai que les postes à doubler, parce que là, on parle de doublure, ça sera latéral gauche. Parce que même si Rokia est plein de potentiel, moi, je pense qu'il est encore un petit peu vert. Je le vois s'imposer, arriver à s'imposer à l'OM dans la rotation, mais peut-être pas cette année. À ma vie, tu parlais d'à ma vie. Bon, bah, je le disais, hein, pour moi, à ma vie, il a fait deux bons mois l'année dernière. Il a fait deux bons mois. Jusqu'à sa blessure, après il était absent. Donc il faut absolument trouver un vrai concurrent. Je parle même pas d'une doublure, je pense un vrai concurrent au poste de latéral gauche.
Sakai avait joué un peu aussi à gauche.
Sakai peut jouer à gauche, ouais.
Mais un dépeuple le côté droit du coup.
Voilà. Tu perds offensivement quand Sakai est couloir gauche. Il est pas sur mon pied. Et vraiment, après voilà, enfin les postes de devant, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un petit peu faible, mais ça sera des joueurs de complément. Et j'attends vraiment de voir. Je pense que sur le match d'hier et vu les déclarations de Rudy Garcia après le match, j'ai l'impression que Cabella va quand même avoir sa chance. Alors qu'il est annoncé par
il a un rendez-vous demain avec Saint-Etienne, donc à voir qu'est-ce que va donner.
Il faut le garder, moi aussi.
Et ben justement, concernant Rémi Cabella, il a parlé hier après ce match amical et la défaite face au Betis Séville. C'est compliqué, il peut se passer tellement de choses jusqu'au 31 août. Donc voilà, je me concentre sur le terrain pour bien me remettre à 100%. Je sais que derrière, il parle évidemment de ses agents, ça travaille. J'ai une discussion avec le coach, on verra comment ça va se passer.
Ils en demandent beaucoup. Hein.
Non, il restera pas, moi, je pense.
Non, pour l'instant, la tendance, c'est un départ, mais le truc, c'est que Marseille, on demande quand même 10 millions.
C'est un bon joueur.
Et il pourrait être intégré aussi à la transaction avec Mario Balotelli, parce que Nice peut être intéressé.
Ouais, mais lui, quand tu sors d'une saison où t'as été prêté, t'as été plutôt bon, donc t'as joué.
Tu veux pas
t'as pas envie de revenir et de
surtout
même à Marseille.
Quelle est la marque de fabrique de cette équipe-là sur l'année dernière? C'est une équipe qui physiquement est très dense. Et se donne vraiment à 100%.
Lui qui a rien lâché.
Et je pense que Cabella, il a peut-être quelques inconstances physiques et quelques indisciplines, notamment dans son repli, qui fait que je le vois peut-être pas forcément s'intégrer à l'état d'esprit de cette équipe-là.
Je trouve que plutôt d'aller recruter un autre joueur quand on a déjà Rémi Cabella dans son effectif, mais ça évidemment, je ne suis pas boss de l'Olympique de Marseille.
Pas du tout,
mais j'aime beaucoup Rémi.
J'aime bien aussi.
Christophe, merci beaucoup pour ton avis au 32-16. Tu nous appelles quand tu veux, évidemment, dans cette grande famille qu'est l'After. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton avis tranché dans quelques instants. Ce sera celui de Sami Traoré. On va parler de l'AC Milan, ou plutôt de cette venue, du retour de Leonardo en tant que directeur sportif. C'est une bénédiction pour toi. On va enfin revoir le grand AC Milan. On sera également avec Simone Rovera en direct d'Italie. À tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Christophe Drouet.
21h47, vous écoutez l'After, toujours avec Jonathan McCarthy, avec Sébastien Piocel, avec Sami Traoré. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Oui, au mois de juillet, l'After, c'est de 21h à 23h. Ensuite, ce sera de 22h à minuit. On vous donnera toutes ces informations très vite dans cette émission. Évidemment, dans quelques instants, nous parlerons à 22h de Marco Verratti. Est-ce la saison de la dernière chance pour lui et pour briller enfin avec le Paris Saint-Germain, un statut de star comme il pourrait aussi le mériter? On l'a annoncé comme ça. Il a voulu rester au Paris Saint-Germain et il revient dans deux jours face à Arsenal pour cette tournée en Asie. On vous en parlera. Et puis à 22h20, toutes les dernières infos mercato du jour, sans oublier le quiz à partir de 22h40. Appelez-nous au 32-16 pour remporter deux places pour la rencontre amicale à Nice samedi prochain entre l'Inter et Chelsea. Mais tout de suite, place à la vie tranchée de Sami Traoré.
Quand on a une équipe, c'est comme avoir un orchestre. Tous les joueurs jouent leur partition et il y a un chef d'orchestre qui est l'entraîneur.
C'est beau.
C'est vrai que c'est plutôt beau, on avait encore envie.
Ça change d'Oumtiti.
D'avoir cette. C'est vrai que pour l'instant, t'avais le jingle Oumtiti où tu le charriais un petit peu.
C'est pas moi qui l'ai charrié. Moi, j'ai juste commenté et rigolé un peu sur.
Pour résumer l'affaire, vous n'étiez peut-être pas avec nous ces derniers jours. Oumtiti était présenté, en tout cas, son surnom au sein de l'équipe de France, c'était le beau gosse. Et toi, tu pensais que c'était pour charrier Oumtiti, qu'il l'appelait le beau gosse. Voilà, c'était ironique. Bref. Là, nous avons choisi cette envolée, car tu vas t'envoler littéralement pour le retour de Leonardo à l'AC Milan. Retour en tant que directeur sportif, et ça te plaît énormément.
Oui, ça me plaît déjà dans la mesure où, déjà, je vais vous donner quelques dates pour que vous compreniez bien qui est monsieur Leonardo pour les équipes de Milan. C'est-à-dire les deux équipes, non pas le Milan AC seulement, ni l'Inter seulement. Alors, Monsieur Leonardo, c'est beaucoup de « je t'aime » et « nous aussi on t'aime » entre les deux Milan, comme je vous expliquais. Début 2008, il devient directeur technique du Milan AC. Derrière, le 31 mai, après le départ d'Carlo Ancelotti, il devient entraîneur. 2010, il quitte le Milan. D'un commun accord, quelques mois plus tard, il devient entraîneur de l'Inter de Milan. Il prend la place de Rafael Benitez. Donc déjà, c'est quelqu'un qui connaît déjà les deux maisons. Bref. Et juste pour sa partie, un peu, je vous donne là juste la partie de directeur technique hein, de Leonardo, bien sûr. Il est appelé par le Paris Saint-Germain, le 13 juillet 2011. Et dès cette première prise de fonction, il réussit à ramener, quelle que soit l'enveloppe, on ne parle pas spécialement d'une masse financière, on parle d'un homme qui réussit à ramener des joueurs tels que Momo Sissoko.
Oula, tu commences mal.
C'est ce qu'il disait. Qu'il a ramené sous l'air d'Ancelotti.
Il charriait Momo Sissoko, là, c'est tout.
Menez, Gamero, Matuidi, Sirigu, Lugano, Mota, Pastore. Déjà, c'est des noms qui donnent vraiment à réfléchir, déjà, sur cette première année. Deuxième année, il fait venir Lavezzi, Vanderbilt, Thiago Silva, Ibrahimovic, Lucas et Beckham. Donc, quoi qu'il en soit, on peut dire que cet homme-là, au niveau football, et je parlerai même de mondialisation du foot, dans le football, à toutes ses entrées. Ça veut dire que Monsieur Leonardo, qui revient à la maison, chez lui au Milan AC, je pense avec de nouveaux actionnaires qui sont capables quand même d'avoir une masse financière quand même importante, je pense que toute l'Italie, pas que le Milan AC, mais toute l'Italie devrait se réjouir de cette nomination-là. Après, je pense que ça va valser au Milan AC. D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il n'était pas en bon terme avec l'entraîneur.
Ah bah non, quand il était parti,
Gennaro Gattuso avait chanté Simone Rovera dans quelques instants.
Leonardo Uomo di Merda, ouais.
Donc, à mon avis, il va y avoir beaucoup de changements et à la tête de ça, Leonardo va amener toute sa patte et je pense qu'on va retrouver un Milan assez compétitif dans les jours, voire les mois, voire les années à venir.
L'AC Milan qui peut redevenir, en tout cas on l'espère, un grand d'Europe avec cette venue de Leonardo. C'est ton avis tranché, Samy Traoré. On va poser la même question à notre Italien, notre drôle de dame, Simone Rovera, en direct de Milan. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Buonasera. Ça fait plaisir de t'entendre, Simone.
Il a eu des longues vacances en plus. Hein.
Il a eu de longues vacances, évidemment. Arrêtez de le charrier tout le temps avec cette équipe d'Italie qui a pas... Quoi ? Vous avez pas fait la Coupe du Monde? Oui, c'est vrai.
Il a disparu. On s'inquiétait, on se demandait, il est où Simone?
Mais Simone est là, évidemment. Il est chaud pour réattaquer cette nouvelle saison. Et tu as participé à la conférence de presse de présentation aujourd'hui de Leonardo. Tout d'abord, est-ce que toi, ton intime conviction, est-ce que tu penses que Leonardo, c'est la personne parfaite pour relancer vraiment l'AC Milan?
Oui, c'est sûrement l'homme qu'il fallait dans le club où il a pu laisser des bons souvenirs en Italie en tant que joueur. Faut pas oublier quand même que oui, à l'Inter, il est resté pas longtemps, mais c'est les derniers trophées gagnés par l'Inter, c'était avec Leonardo sur les bancs, c'était en Coupe d'Italie. Mais pour parler du Leonardo manager, il est le directeur général du domaine technique sportif, donc. C'est vraiment un rôle même supérieur à celui des directeurs sportifs. Il va s'occuper de tout ce qui concerne la première équipe, mais aussi tous les jeunes. Leonardo, c'est l'homme qui peut, avec ses contacts, avec son réseau, je pense que c'est l'homme qui est parfait pour aller chercher les joueurs qu'il faut aujourd'hui au Milan. Parce que oui, il y a des nouveaux investisseurs, qui c'est les fonds Elliott qui avait financé l'achat du chinois Li, qui après a échoué cet été pour des raisons financières. Donc c'est une ancienne copropriétaire, on peut dire, qui devient propriétaire, qui va investir dans les Milan, pas énormément d'argent. On sait qu'il va investir 50 millions cet été et 100 millions dans les prochaines années. Mais l'idée, c'est, première chose, de faire un Milan qui est sain, un Milan qui n'a pas de dettes et qui va acheter des jeunes joueurs pour l'avenir. Mais à Paris Saint-Germain, au Paris Saint-Germain, On a pris des jeunes joueurs avec Leonardo Marquinhos, il est arrivé, il avait 19 ans. Verratti. Marco Verratti, il a parlé de Verratti aujourd'hui en conférence de presse en disant pour trouver des jeunes joueurs comme à l'époque était Thiago Silva, Kaká ou comme c'était Marco pour les PSG, il faut du temps. Donc, il n'a pas vendu du rêve, il a dit il faudra un an et demi pour aller chercher cette type de joueurs. Et attention, Milan aujourd'hui veut redevenir grand, mais faut faire attention aux fair play financiers, faut faire attention à plusieurs choses. Donc, pas comme la saison dernière où on a dépensé 200 millions pour chercher d'arriver tout de suite en Ligue des Champions, gagner les championnats, pourquoi pas, et faire des promesses qui n'ont pas été maintenues. Les discours de Leonardo aujourd'hui devant une quarantaine de journalistes a été très sérieux. Et quand je lui ai demandé, est-ce que c'est le plus grand défi de ta vie en tant que dirigeant ou après ta carrière d'entraîneur, il m'a dit, j'aime pas trop parler des défis, mais oui, tu es pas très loin de ce que c'est la vérité. Parce qu'ici, c'est ma maison. Je reviens dans la ville qui m'a beaucoup donné dans ma vie à niveau professionnel, mais même à niveau personnel. Et quand tu retournes dans ta ville, celle qui est comme ta deuxième maison, tu as une responsabilité en plus. Et donc, oui, c'est un défi très important pour moi.
Et Leonardo qui a déclaré, c'est une grande fierté d'avoir été choisi pour ramener le Milan au niveau qui est le sien. Il a déclaré, et tu as parlé du fair play financier, nous sommes toujours liés par ce fair play. Voilà, ouais. Ce ne sera pas un marché fou, mais un marché sage, intelligent et cohérent en ce qui concerne les comptes du club. Justement, avant d'évoquer le cas Bonucci, car il en a parlé, et ça fait le buzz aujourd'hui sur la planète transfert Leonardo, Gennaro Gattuso, veut-il vraiment le garder? Il a déclaré, nous sommes sur la même longueur d'onde avec le propriétaire. Rino a été le premier à être confirmé par Elliott. Vous parlez de Conte et c'est normal de parler des grands entraîneurs qui sont libres, mais personne n'a jamais parlé à Antonio. Gattuso incarne l'AC Milan et il a grandi en tant qu'entraîneur. On va écouter Gattuso dans quelques instants, mais toi, ton avis là-dessus?
Aujourd'hui, le Milan, je pense qu'il a besoin de Gattuso, surtout parce que les supporters aujourd'hui se sentent un peu trahis par le passé, tout ce qui s'est passé dans ces dernières saisons, le départ de Berlusconi, les Chinois qui n'ont pas maintenu les promesses, Bonucci qui devait être le leader, le capitaine qui a demandé de partir, et aujourd'hui Leonardo l'a confirmé en conférence de presse. Donc aujourd'hui, s'il y a un symbole qui lie les Milan des victoires historiques, c'est Gattuso, même plus que Leonardo, parce que Leonardo, quand même, il a été un peu contesté, un peu...
Et quand tu parles à l'Inter?
Oui, il n'a pas fait l'unanimité, les retours de Leonardo, parce que il a considéré une trahison son passage à l'Inter. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui fait l'unanimité entre tous les supporters du Milan, et dont les soutiennent, et fait en sorte aussi, au-delà des résultats, que San Siro soit quand même avec ses 40, 50 000 spectateurs pour supporter Milan, c'est surtout Gennaro Gattuso sur le banc. Donc, limoger Gattuso aujourd'hui, même s'il y a les rêves Conte, même si c'est un profil super important, celui d'Antonio Conte, les limoger en été, surtout à quelques semaines du début du championnat, aujourd'hui, tirage dès la première journée, et je vous dis que Cristiano Ronaldo va débuter à Vérone face au Chievo, ce serait une complication pour Milan dans ce moment de reconstruction, perdre une figure, un personnage charismatique, emblématique.
Non mais Simone, surtout, pour attirer un grand entraîneur, il faut lui donner une enveloppe, un budget pour recruter.
Et vu les déclarations sur le mercato, ça n'a pas l'air ça.
Donc, déjà, l'enveloppe, ouais, exactement, j'y sais. Et la question que j'ai, c'est pour Simone, c'est est-ce que Elliott a remis tout à plat au niveau des comptes du club?
Bah, ça, non, pas encore.
C'est-à-dire, voilà. Donc, et ça sera sur 2-3 ans. Apparemment, que le club pourra retrouver une stabilité financière.
Déjà, il y aura des départs importants.
Ça vend un peu.
Montolivo devrait partir avec son salaire à 4 millions net. Bonucci devrait partir, salaire très important. On part d'une vente de Kalinic, peut-être André Silva. Donc, tous les joueurs qui n'ont pas été satisfaisants sur la dernière saison et qui ont des contrats importants vont repartir. Ce n'est pas un hasard si dans la négociation entre Juventus et Milan pour Bonucci, Milan a demandé Caldara, qui était un des meilleurs jeunes joueurs de la saison dernière, et c'est un joueur très important pour l'avenir même de l'équipe nationale.
Oui, bien sûr, oui.
Et pour le départ de Bonucci, il veut des jeunes joueurs, pas qui ne gagnent pas et qui ne demandent pas 8 millions de mètres par an, mais 2-3 millions. Donc, même à niveau financier, l'opération doit être très important pour Milan.
T'imagines, ils font Calcara, Romagnoli en charnière derrière, ils sont parés pour l'avenir là.
Très rapidement.
Ils sont tranquilles pour 10 ans.
Simone, très rapidement, on n'aura pas le temps d'écouter Gattuso, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien évidemment avec Leonardo, même si tout n'a pas toujours été facile entre les deux hommes. Tu nous l'as dit, Leonardo a confirmé Gennaro Gattuso dans ses fonctions d'entraîneur, donc il devrait être normalement l'entraîneur pour cette saison de l'AC Milan. Tu as parlé également de Bonucci, on en parlait au Paris Saint-Germain, mais semble-t-il, et il l'a dit, que la Juventus voulait le récupérer, donc normalement le deal se fera entre l'AC Milan et la Juventus pour Leonardo Bonucci. Moi j'ai une petite question un peu perfide qui ne s'appuie sur rien, mais ce qu'on pourrait imaginer, on sait que Thiago Silva adore l'AC Milan, il l'a souvent répété, dit, est-ce qu'il pourrait récupérer Thiago Silva au Paris Saint-Germain selon toi?
C'est une question que moi aussi je me suis posée, mais si on regarde les salaires de Thiago Silva et le fait qu'il a un contrat, je pense, jusqu'à 2020, si jamais les Paris Saint-Germain acceptent un départ de Thiago Silva avec une indemnité très très baisse et Thiago Silva accepte de diviser par deux, voire par trois son salaire, rien n'est impossible. Mais en ce moment, cet été, en ce moment de la saison, avec une championnat qui démarre dans 15 jours en France et 3 semaines en Italie, ça me semble hyper compliqué, un deal de ce type. Dans l'avenir, peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas.
Ok, merci beaucoup Simone Rovera.
Ciao, Simone.
À très vite, évidemment, physiquement sur le plateau de l'After. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'un autre Italien. Marco Verratti. Oui, Marco Verratti. Est-ce la saison de la dernière chance pour lui? Pourquoi cette question? Il fait son grand retour et on vous dit tout dans quelques instants sur RMC dans l'After.
Viva Marco.
RMC, le super football show, l'After Foot.